France Musique.
Bonjour Philippe Cassard, on vous retrouve bien sûr samedi prochain.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, rendez-vous avec Pierre Bénichoux. Savez-vous en effet que l'ancien directeur du Nouvel Observateur, devenu la voix très populaire des Grosses Têtes, est un véritable amoureux de la chanson française ? Il parle avec une même passion de Bruant et de Montand, de Trainé et de Ferré, sans parler de tout ce que vous avez oublié, mais que lui connaît sur le bout des doigts. En fin d'émission spéciale archive avec des trésors de mistinguettes que j'ai retrouvés pour vous. Mais pour bien commencer, honneur à Offenbach, il nous attend dans la cuisine où il vient de finir un plat très alléchant. Qu'y a-t-il donc dans cette assiette ?
C'est, messieurs, un pâté. Contemplez ce pâté.
Quel pâté.
Attendez et regardez.
Attendons, regardons.
C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Qu'il est bon.
C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Qu'il est bon.
Rafraîchissant et tonique par son heureuse combinaison. D'une bonne politique, il est l'expression. Salué au bourgmestre, car il contient dans son flanc l'héritier de votre maître et l'avenir du Brabant. C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Qu'il est bon.
C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Il est bon.
Par sa vertu singulière, il laisse derrière lui la douce revanessière de l'enchanteur du Barry. C'est de la reine des filles qu'il tient ses dons éclatants. Chacune de ses bouchées vous rajeunit de 5 ans. Si par amour de la science, en attendant, vous voulez sur vous faire une expérience, ne vous gênez pas, parlez, parlez. Par ses effets inestimables sur l'imagination, il rend les maris aimables après 15 ans d'union. Au nom de vos moitiés, il faut que vous en goûtiez. Oh, c'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Qu'il est bon.
C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Si par amour de la science, en attendant vous voulez surtout faire une expérience, ne vous gênez pas, parlez, 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 parlez.
L'excellent Michel Hamel dans ses couplets de Geneviève de Brabant, opéra bouffe d'Offenbach enregistré en 1956 ici, sous la direction de Marcel Cariven. Tout cela pour vous rappeler qu'en ce moment, au musée d'Orsay, un spectacle qu'il faut voir, c'est Un dîner avec Jacques. Toutes les recettes de cuisine d'Offenbach, il a beaucoup écrit sur le jambon, sur le pâté, sur le thé, sur le champagne. Tout cela servi de préférence dans des cabinets particuliers. La nourriture et la boisson sont très présentes dans son œuvre et c'est l'occasion d'un spectacle avec des chanteurs formidables comme Jean-Sébastien Bou, Yann Beuron, Franck Le Guérinel, Vanina Santoni et d'autres, à voir donc jusqu'au 9 octobre à l'auditorium du musée d'Orsay.
Ha ha ha.
La polka du colonel, une musique de Gérard Calvi arrangée de façon très très fantaisiste par André Pop dans son album Elsa Popini et sa musique sidérante, un disque culte de 1957.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous allons retrouver mon invité, un invité qui adore la chanson, qui la connaît, qui sait nous la raconter. Il a été longtemps directeur du Nouvel Observateur. Aujourd'hui, c'est plutôt une vedette populaire de l'émission Les Grosses Têtes, où l'on rigole beaucoup, ce qui ne l'empêche pas d'aimer aussi les chansons mélancoliques. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Bénichou.
Le vent du passé me murmure un conte effacé, éveillant mes amours fanés. Valse du souvenir, mélodie des désirs oubliés. Quand vous dansiez, Mathilda, pour moi, valsez Mathilda, valsez Mathilda, charmant fantôme de mes jours fleuris, tourbillon parfumé, en valsant vous étiez si jolie. Quand vous dansiez, Mathilda, pour moi, vous étiez, hélas, jamais plus ne me reviendrez. Quand vous dansiez, Mathilda, pour moi,
bonjour Pierre Bénichou.
Bonjour.
Vous en avez connu des Mathilda qui ressurgissent comme ça quand vous écoutez des chansons parfois?
Ah oui. C'est fait pour ça la chanson. Hein. C'est le
pouvoir d'évocation extraordinaire.
Extraordinaire. Et puis en plus, c'est la poésie. Il n'y a pas une poésie qu'on ait entendue aussi souvent qu'une chanson de Sheila.
C'est
pas mes préférés, mais je veux dire, c'est vrai que quand on a un peu l'amour du mot, qu'on a une mémoire à toute épreuve, comme je crois avoir, mais c'est pas du tout une qualité, c'est juste une bizarrerie, on connaît un peu de Mallarmé, beaucoup de Sheila, mais ça fait rien.
Mais vous avez dit aussi, d'ailleurs, dans un article sur Léo Ferré, si je me souviens bien, qu'au fond, les grands chanteurs avaient réussi à faire ce que Debussy ou Fauré n'avaient pas réussi à faire avec les poètes.
Hein. Oui, ils sont des gens qui arrivaient à faire descendre dans la rue.
Voilà.
La poésie. C'est Aragon qui disait ça. On lui dit, mais vous n'êtes pas fâché que maintenant, on lui dit pas du tout, c'est formidable. Il avait même dit une chose formidable dans la préface d'un disque, enfin dans la quatrième d'un disque, de Monique Morelli, où il disait, maintenant c'est formidable, je sors dans la rue, j'entends des gens qui chantent ma chanson.
Ah oui.
Par la grâce de cet instrument stupidement décrié, le transistor.
C'est très joli. Et justement, je voulais commencer avec Montand, parce que je sais que vous aimez beaucoup Montand, Pierre Bénichoux.
Mais Montand, on a une dette vis-à-vis de lui.
Oui.
C'est que comme il était grand et con, et qu'il se prenait pour Caruso, on disait c'est nul.
Ouais.
Et c'est pas nul du tout. C'est formidable, Montand.
C'est aussi les postures de l'homme, ses positions, ses changements de cap.
De mais c'est un... il a blessé beaucoup de choses. Oui.
Voilà. Et j'avais pensé, sinon, si ça n'avait pas été Mathilda, j'avais pensé à la chansonnette. Non pas que c'est peut-être la plus belle chanson, mais parce que je voulais qu'on parle un peu justement de la chansonnette. Vous connaissez les débats. Gainsbourg disait que c'était pas un grand art. Vous, c'est un art qui a accompagné toute votre vie, en tout cas, qui est central
pour
vous.
Oui, mais je crois pas que ce soit un art non plus.
Ah bon?
Non.
Vous rejoignez Gainsbourg sur cette question.
Oui, ouais, c'est bien, c'est formidable, mais c'est pas le dormeur du Val, quoi.
Non, mais c'est quand même central dans votre vie à vous, Pierre Bénichoux.
Ah oui, bien sûr, oui. Oui, c'est vrai que Monsieur Williams, c'est aussi bien que le dormeur du Val.
Quand même.
Avec la surprise à la fin, avec tout ça, mais c'est pas mal quand même, le Monsieur Williams. Un aveugle en gémissant. Sans le savoir, à marcher dans le sang, c'était peut-être le destin qui passait dans la rue. C'est de la poésie, ça. De Cosimo.
On va remonter un peu dans quelques souvenirs.
Yes.
Mais ce qui me frappe, c'est que, alors, on vous attend plutôt, c'est peut-être l'influence des grosses têtes, comme un personnage un peu gouailleur, etc. Et vous avez sorti des chansons mélancoliques, des chansons poétiques, des chansons délicates et raffinées, qui ne collent peut-être pas exactement à la même image.
Bah oui, je sais pas, vous savez, tout le monde est double, multiple.
Ouais.
Et d'ailleurs, je l'ai écrit, ça, vous parlez de la mélancolie, je l'avais écrit dans un article sur Léo Ferré, dont vous avez la gentillesse de prendre note. Je dis, dites-moi vos 6 chansons préférées, et je vous raconte votre vie, et je vous fais pleurer. C'est l'art personnel, c'est une référence à Valérie, le chromosome de la mélancolie, qui marque les membres d'une même famille. C'est vrai qu'il y a une fraternité. Dans les gens qui écoutent la chanson, qui est formidable.
Qu'on respire ces fleurs bleues, un regard qui vous attire ces fleurs bleues, des mots difficiles à dire ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, un rendez-vous en automne ces fleurs bleues, une chanson qu'on fredonne ces fleurs bleues, un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent ces fleurs bleues, on envoie des pneumatiques à fleurs bleues, les dimanches sont poétiques tout fleurs bleues. On se met du cosmétique dans les cheveux, oui parbleu, pour fleur bleue. On jure que l'on s'adore tous les deux, et l'on jurerait encore si fleur bleue. De vos plaquer ça c'est vache pour un dragon, un moustache à mort bleue. Elle n'est pas revenue mystérieux, oui a jamais disparu sans adieu. Et je suis seul dans la rue, larmes aux yeux, larmes aux yeux, larmes aux yeux. Mais soudain le cœur bat vite, ah mon Dieu, la voilà, c'est la petite, l'air joyeux. Non, ce n'est pas elle qu'elle drame, c'est une assez grosse dame, pas fleur bleue. Alors le printemps, l'automne, sans fleur bleue, coule des jours monotones, ciel pluvieux. Et cet air que je fredonne sans fleur bleue devient vieux, ennuyeux. Pourtant ne soyons pas tristes pour fleur bleue, j'en ai là toute une liste, c'est bien mieux. Amourette passagère, joie pleine de cœur légère, oui, fleur bleue. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleur bleue. Un regard qui vous attire, c'est fleur bleue. Des mots difficiles à dire, c'est fleur bleue, c'est fleur bleue, c'est fleur bleue. Un rendez-vous en automne, c'est fleur bleue. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleur bleue. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleur bleue.
Et là, on est en 1937, c'est un petit peu avant votre apparition, Pierre Bénichoux.
Oui, je ne suis apparu qu'un an plus tard, mais mes parents avaient, pendant la guerre, un phonographe.
Ouais.
Et ils possédaient 2 disques. Il y en a un qui était chanté par Maurice Chevalier, je crois qu'il était... Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qu'il se raconte?
Des histoires de vicomte.
Elle était fou de ça. Et un autre
formidable
disque, qui était de Trainet, où il y avait je ne sais quelle chanson très connue, et Fleur Bleue, je trouvais formidable parce que mais on sent poétique, non, on se met du cosmétique pour Fleur Bleue. Je trouve ça formidable parce que de même qu'on peut dire que Léo Ferré a fait descendre Aragon dans la rue, donc la poésie, hein, Trainet a fait descendre, lui, le jazz dans la rue.
C'est vrai.
Et il a fait descendre, rien n'est plus jazzy que les chansons de...
De Trainet avec le bel orchestre de Valberg dans ses premiers enregistrements.
Je suis pas très sensible aux orchestres, ma belle.
Ah bon, les arrangements, tout ça, c'est pas votre...
Non, je connais rien.
Ah oui.
Vous savez comment ils disent les cons maintenant pour dire que c'est le truc, le disque est bien, et la musique va bien? C'est bien produit.
C'est bien produit. Non, je parle d'arrangeur, d'orchestrateur, c'est autre chose.
C'est les producteurs qui choisissent des bons orchestres.
Ça, c'était donc ces jeunes années où peut-être vous entendiez cela sur les disques, c'était à Oran, hein, avant votre arrivée à Paris quelques années plus tard. Mais vous m'avez dit qu'à Oran également, il arrivait que votre grand-mère vous prenne par la main jusqu'au théâtre municipal où on donnait des opérettes, des opéras.
Alors, je connaissais RIP.
Ah oui?
C'est un rien, un souffle, un rien, une boucle blonde dans le vent, légère.
Donc. Exactement, vous vous rappelez,
alors,
c'est
j'ai
très
pas,
bien.
J'ai pas beaucoup de souvenirs parce qu'il n'y avait pas de disque, vous savez.
Mais il y avait une vie musicale comme ça en Afrique du Nord, dans les grands théâtres municipaux.
Oui, il y avait une
vie
bourgeoise copiée sur la française.
Exactement.
Et qui était plus française que la française. Qui était d'un amour fou de la France, de la guerre, de la francité, l'horreur des Boches. En fait, ça, c'était pas des trucs très bien. Mais c'était la France multipliée par 5.
Voilà.
C'est pour ça quand l'autre con on l'a fait partir de là-bas, c'était totalement injuste. C'était non seulement une faute politique, mais une faute morale incroyable. Parce que sur les 9 millions de pieds noirs, il y avait 50 000 riches. Et les autres étaient des petites personnes, des employés des postes, des employés du gaz, des trucs. Et c'est pour ça que je porte De Gaulle pas dans mon cœur du tout.
Parce mais que tout le monde est gaulliste aujourd'hui, sauf vous, alors toujours pas.
C'est de moins en moins.
D'accord. De Le Pen à Mélenchon, tout le monde est gaulliste.
Non, c'est le mépris. C'est pourquoi il a donné l'Algérie, parce qu'il détestait les Arabes. Et qu'il avait peur qu'ils viennent ici. Donc, faute de calcul.
Enfin, n'empêche que toujours dans votre article sur Trainet, vous racontez une anecdote très amusante sur le général de Gaulle dans une réception à l'Élysée.
Oui, c'est Trainet qui me l'a raconté. Un jour, j'étais avec lui, il faisait son retour à Rennes, je me souviens.
Ouais.
Et il n'avait pas le trac du tout, il avait refusé de répéter. Il avait mis Jean-Jacques Debout à sa place pour faire les lumières, tout ça. Et moi, il me parlait, il me racontait des trucs et tout. Et là, il s'est coiffé un peu, puis... comme ça, les cheveux, il me dit, ça va, les cheveux? Je dis, oui, oui. Ah, la voix et les cheveux, ça ne part pas. Bon. Et il m'a dit, oui, il y a le coiffeur Alexandre, qui il m'a dit, j'ai demandé de venir coiffer, il a dit, je ne coiffe plus. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, j'écris. Alors, tu écris des romans, tu écris des chansons? Non, ce serait plutôt des essais. Alors, il dit, sans doute les essais de Montaigne. Bon, c'était, il adorait. Les calembours, les trucs comme ça. Bon, alors donc, pour en revenir à ce que vous me disiez...
L'Élysée, une réception...
Au début de son retour, enfin, des premières années de son retour, en 58, 59,
ouais.
Il demande qu'on organise une soirée avec les plus grands chanteurs. Alors, c'est Trainet qui me raconte, il y avait normalement Tino Rossi, Piaf...
Chevalier.
Et Chevalier. Et moi, et quand j'arrive, quelqu'un me dit, mais mettez-vous avec eux... Et je suis à côté. Et là, il y a Chevalier qui est à côté de moi, qui me donne un coup de coude, et qui me dit... Parce qu'au deuxième rang, il y avait Montand, Aznavour, Beko, les autres. Et on était une quarantaine. Il dit, comme un con, il m'impressionnait tellement, il me sort son portefeuille. Et il sort un petit bout de papier, c'est « J'ai pris votre chanson, il y a de la joie, j'espère que ça va vous porter bonheur. Bon courage, mon petit gars. » Bon, j'ai pris ta chanson. Il dit, il m'a toujours tutoyé, je l'ai toujours vous voyez.
Oui, il l'avait lancé, il y a de la joie, avant Trainet lui-même, hein, Chevalier.
Et alors, il était content, il me racontait ça. Et il me dit, mais De Gaulle arrive, il serre la main à Piaf et à Tino Rossi. Et avant d'arriver à Chevalier, il met sa main entre les deux têtes, de Piaf et de Chevalier, qui est là. Il me serre la main. Et pendant qu'il me serre la main, je vois Chevalier qui fait comme ça, qui roule les yeux. Et comme pour lui répondre, De Gaulle dit « Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu ».
Voilà, il connaissait par cœur.
Et il dit des petits trucs comme ça, ça vous requinque.
Ça vous le rend sympathique, De Gaulle. Hein.
Oui, oui, très sympathique.
Et en tout cas, ça, on le retrouvera d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, dans un livre qui paraît de toutes vos chroniques nécrologiques, et notamment dans celle sur Trainé, donc cette anecdote que vous avez racontée par la voix de Trainé. On va avancer un petit peu et passer à vos jeunes années parisiennes, d'adolescents et de jeunes hommes, continuant à aimer la chanson, avec évidemment la grande figure de la chanson parisienne de l'époque, avec cette chanson que vous aimez particulièrement. Vous pouvez peut-être nous dire pourquoi avant d'ailleurs Pierre Bénichoux, qui s'appelle « Comme moi » par Édith Piaf.
Sagan, François Sagan, qui m'avait attiré mon attention, parce qu'on aimait bien les chansons tous les deux. Elle me dit « Écoute, c'est formidable. » Il y a une phrase dans cette chanson qui est extraordinaire, qui est très simple. Et dans toutes les chansons, il y a toujours une phrase extraordinaire.
Ouais.
Quand Jean Ferrat dit « Marin ne tire pas sur un autre marin
»,
c'est formidable, c'est tout Potemkin. On peut la remplacer par cette chanson. Et dans la chanson, cette chanson de Piaf, enfin dans la chanson d'Aragon, mise en musique par Léo Ferré, où il dit « J'aimais déjà les étrangères ».
Quand j'étais un petit enfant.
Ça paye la chanson.
Oui, c'est vrai.
Et là, elle dit, dans les paroles que vous venez d'entendre, elle dit « Comme moi, elle attend son amour, elle attend son amour, elle attend, comme moi ». Alors elle voudra crever en attendant monter son pas dans l'escalier. Et puis il arrive vers elle, dans tes mains mon amour, dans tes bras mon amour, dans tes mains mon amour. Et elle dit, et puis meurs mon amour.
Et tout est là.
Et le meurs mon amour. Alors on s'est longtemps demandé si c'était une facilité ou si meurs ça veut dire jouis. Et je trouvais que c'était formidable, voilà.
Peut-être bien qu'ailleurs une femme a le cœur est perdue de bonheur comme moi et que d'un geste elle soulève un peu le rideau de soie bleue comme moi pour regarder en bas son amour qui viendra la prendre dans ses bras comme moi. Comme moi, peut-être qu'à son cœur, elle épingle une fleur, et puis regarde l'heure. Comme moi, elle pense à son amour, aux yeux de son amour, aux bras de son amour. Comme moi, peut-être bien encore qu'elle entendra plus fort son cœur battre qu'alors. Comme moi, elle voudra crier en écoutant monter un pas dans l'escalier. Comme moi dans l'instant où mon cœur en suspens se retient un moment contre toi et puis me.
Comme moi, par Édith Piaf.
Quand on entend Piaf chanter ça,
Pierre Bénichoux,
on se dit, est-ce qu'il vaut mieux être avec une pin-up, une beauté extraordinaire, qui dit « je tiens à toi ». Ou alors une mocheté comme Piaf, et qui dit « mon amour », comme elle le dit quatre fois.
Elle en a eu des hommes, d'ailleurs.
Vous savez ce qu'elle disait? Parce qu'on lui demandait, pourquoi t'es toujours avec... avec des coureurs cyclistes, des boxeurs, des mecs, des voyous qui te frappent sur la gueule et tout. Et elle répondait cette phrase ambiguë, on n'est pas responsable de son physique. Et ça voulait dire, je suis trop moche pour choisir. Et ça voulait dire aussi, mes pulsions sont sacrées. Et on ne peut, moi, j'ai jamais pu répondre.
Cette chanson qu'on vient d'entendre, vous la mettriez, vous, parmi les six qui vous définiraient, Pierre Bénichoux? Parce que vous nous avez dit cette phrase, mais il va falloir que
qui
vous
me
disiez...
définissent, non, mais qui me font penser que quelqu'un qui ne pleure pas ou qui n'est pas très mélancolique entre cette chanson, eh bien, comment dire, pour être mesuré, c'est un chien. Voilà ce que je pense. Voilà.
Quand vous étiez un jeune homme à Paris, débutant à France Dimanche, vous sortiez beaucoup. Vous alliez,
beaucoup,
alliez chez Castel la nuit, mais vous alliez aussi.
Castel, c'est beaucoup,
c'est
plus,
beaucoup
tard.
Plus tard. Vous alliez aussi dans les cabarets de chansons de ce qu'on appelait la rive gauche, du point de vue
bien
stylistique.
J'ai même chanté à la Fontaine des Quatre Saisons.
Ah oui.
Deux soirs de suite.
Vous aviez une bonne voix.
Moins bonne que maintenant. Alors je sais pas, j'ai chanté deux chansons. Une que m'avait faite traîner, une que m'avait faite Léo Ferré.
Ah bon, quand même, pour
en
vous.
En fait, m'avait faite. Ils avaient dans des fonds de tiroir des trucs pas très bons et qui m'avaient envoyé.
Et vous espériez percer comme chanteur?
Non, j'espérais rater. Bien sûr que j'espérais percer. J'espérais surtout interrompre des études de médecine que mon père m'avait fait commencer et j'avais 18 ans. Bon. Mais
La Rose Rouge, donc.
La Rose
aussi.
Rouge, j'étais à la fin de La Rose Rouge. Et la Rose Rouge, il y avait. En tout et pour tout, Gréco et les frères Jacques.
Ouais.
Les frères Jacques étaient un concentré d'humour, de finesse, qui avaient repris beaucoup des chansons dites de 1900, qui sont de fausses chansons de 1900, parce que c'était tout des parodies.
Oui,
oui. Il y avait donc La Rose Rouge, il y avait La Fontaine des Quatre Saisons. Il y avait la Galerie 55, il y avait tout ça, où on débutait beaucoup, beaucoup.
Vous vous êtes lié d'ailleurs à quelques-uns, comme Paul Touraine, Fred Mella, qui sont restés des amis.
Oui, non, je les ai connus plus tard, mais à l'époque, je n'osais pas les voler. Ils ont 10 ans de plus que moi. Hein.
Il y avait aussi un jeune chanteur.
Je n'osais pas trop. Il y a qu'une dizaine d'années que je les vois, que je tutoie et tout ça, c'était des... Type, on n'osait pas parler aux chanteurs, aux trucs, c'était très...
Il y avait aussi un jeune chanteur qui s'appelait Ciné.
Ciné, il était avec les garçons de la rue.
Le dessinateur, hein.
Ouais. Dessinateur, oui, c'était les anards.
Ouais. Vous étiez un peu anard, vous aussi, Pierre Bénichoux?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, j'étais de gauche, oui, j'étais contre l'armée et l'église, oui, mais c'est pas être anard, c'était pas... Oui, je trouvais que l'art, la chanson, le roman, c'est plutôt Céline que Paul Bourget, quoi.
Oui, mais vous étiez quand même... Alors, voilà, vous citez Céline, vous avez parlé tout à l'heure des Pieds Noirs, par rapport au milieu des intellectuels de gauche, du Nouvel Obs, etc. Vous étiez quand même très décalé, et ça les choquait pas, vos goûts, vos façons d'être.
J'ai oublié qui était Céline à partir de 1937-38.
Ouais.
Mais quand, en 1932, je crois, apparaît le Voyage au bout de la nuit, et quand surtout comparé le
Mort à
crédit, le plus beau titre du monde.
Ouais.
Bon, et c'était ça. Après ça, il a dit ses conneries, ses horreurs, cette haine de lui-même.
La défense des Pieds Noirs, on vous entendait au Nouvel Obs aussi là-dessus?
Mais bien sûr.
On va continuer, si vous voulez bien, Pierre Bénichoux, avec un autre chanteur que vous adorez et qui figure aussi dans votre recueil de nécrologie. On y reviendra parce que vous êtes spécialiste de la nécrologie.
Ben oui.
Vous savez pourquoi? Vous êtes un journaliste qui a très peu écrit d'articles, mais qui a écrit beaucoup de nécrologie.
Non, mais c'est pas ça. C'est parce que il y a des tas de sujets dans lesquels je trouve que les autres sont aussi bons. Et ce que, dans un article qui est paru dans Libération, sur moi, ce qui m'a beaucoup flatté, et qui voulait être, louangeur.
De Marcella Yacoub, hein.
Ouais. Et on a l'impression que j'ai fait que 18 nécrologies et beaucoup de fêtes chez Castel. C'est vrai que les deux sont vrais.
Oui.
Mais j'ai été quand même directeur
quand même
du plus grand hebdomadaire européen.
Vous n'étiez pas un glandeur?
Si. J'étais glandé, mais je travaillais beaucoup et je suis beaucoup plus faiseur de journal que journaliste, voilà. Et j'ai, Et quand la transformation de France Observateur en Nouvel Observateur, je revendique d'y être pour quelque chose. Et je crois que personne qui m'ait vu au travail, j'ai formé des tas de jeunes journalistes, mais c'était pas des, ces notaires de l'information que les journalistes sont devenus maintenant. Voilà.
En tout cas, l'article que vous avez écrit pour la mort de Léo Ferré est une petite merveille du genre. On va y revenir, mais on écoute d'abord peut-être Monsieur Tout Blanc, une chanson donc du jeune Ferré que vous adorez.
Alors
tout
justement,
particulièrement.
Justement, c'est une chanson anticléricale formidable.
Monsieur Tout Blanc, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Tout Blanc, la charité, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que c'est ? Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur Tout Blanc, l'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite. Monsieur Tout Blanc, entre nous, dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous vous taisiez. Pendant ce temps-là, moi je vivais à Aubervilliers. Ça n'était pas l'époque à dire des rosaires. Il y avait des tas de questions qu'il fallait se poser. Pour durer, faut lutter, mon petit père. Monsieur Tout Blanc, si vous partez un beau matin, les pieds devant, pour vos châteaux en paradis, Monsieur Tout Blanc, le paradis, c'est peut-être joli. Priez pour moi, moi, j'ai pas le temps, car je vivrai toujours à Aubervilliers. Avec deux bras noués autour de ma misère, on n'aura plus tellement de questions à se poser. Dans la vie, faut s'aimer, mon petit père. Monsieur Tout Blanc, si j'enseignais la charité bien ordonnée dans mes châteaux d'Aubervilliers, Monsieur Tout Blanc, ça n'est pas vous que j'irai trouver pour m'indiquer ce qu'il faut donner.
Le jeune Léo Ferré, choisi par mon invité Pierre Bénichou, qui a écrit un très très bel article pour la mort de Ferré en 1993, qui sera repris donc dans ce livre qui va sortir chez Grasset de vos rubriques nécrologiques, justement, Pierre Bénichou. Mais l'hommage à Ferré est vraiment, vraiment magnifique.
Vous savez pourquoi j'aime bien les nécrologies? Parce que c'est le seul moment où on peut être sincère.
Ouais.
On veut pas plaire, on veut pas plaire, on n'a pas peur de plaire.
On est obligé d'être élogieux quand
non,
même.
Non, pas obligé du tout.
Ah bon ?
Enfin, l'article sur Dassault, qui a été mon patron, qui était la personne la plus vulgaire que j'ai connue de ma vie. Et, ouais. c'est pas cire-pompe. Ouais. En revanche, sur Ferré, c'est formidable.
Mais il y avait des côtés un peu mégalo et insupportables chez Ferré, j'imagine, chez le personnage.
Je le dis.
Ouais.
Mais on peut tout dire, on peut tout dire, oui, oui. Vous savez, on pouvait dire de Ferré ce que Janson disait d'Yves Montand.
Ouais.
Les idées et la Rolls de monsieur sont avancées.
Voilà. le monégasque qu'avait réussi, oui, c'était
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Mais vous me placez quand même très haut, hein. Vous dites dans la trilogie sacrée, pour vous, c'est Trainé, Gainsbourg et Ferré au-dessus de Brassens.
Ah oui.
Ah oui.
Moi, j'aime pas Brassens du tout. Non.
Ah bon
non. C'est très bien.
C'est merveilleux, c'est fin, c'est intelligent, c'est français.
C'est fin, mais c'est comme les ébénistes de la rue Saint-Antoine, du faubourg ouais. Saint-Antoine. Ils essayent tellement de faire à l'ancienne.
À l'ancienne.
Ils y arrivent presque. Mais on n'a pas besoin de ça.
Ouais.
C'est le mignon d'aller voir si la rose, c'est pas les dames d'antan. Non, non, c'est pas ça. Là, t'es toute nue sous ton poule, il y a la rue qui est ma boule, joli môme. Ça, c'est du ronsard d'aujourd'hui.
Donc vous n'avez pas fait la nécrologie de Brassens.
Oh ben non.
Mais on retrouvera celle de Ferré et de Trainé dans ce livre qui va sortir, qui va avoir un succès fou, parce qu'il y a aussi une chose quand même...
Je crois pas,
que, quand même, non, mais il y a une chose bizarre, Pierre Benichoux, vous êtes devenu une idole populaire.
Moi ?
Avec les grosses têtes, etc. Moi, j'ai vu le nombre de choses sur vous, sur Internet, de sites, de faux sites à votre gloire.
Bon,
c'est extraordinaire.
La faux site et le marco. Hein. Non, mais je veux dire...
Votre côté gouailleur, comme ça,
ouais,
séduit le public aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes monté sur les planches aussi. Il y a un autre Pierre Bénichoux qui est apparu après celui du Nouvel Obs.
Non, j'ai toujours été un clown.
Vous avez toujours
j'ai
été
toujours
comme ça
été un pitre, ouais, je faisais
c'est
le pitre, je faisais Je sais pas, moi,
Vous ne surjouez pas votre personnage quand vous êtes chez
Riquier.
Non,
chez pas Riquier, du tout. Ouais. Quand je fais le pitre, pas du tout.
Hein?
Bah, mais... Il m'est arrivé à une époque que j'étais chez moi tout seul, de me faire chier avec des trucs où il fallait que je travaille. Et je descendais au café, je parlais tout seul pour que les gens viennent me parler.
Ah bah d'accord.
Je leur racontais des vies absolument qui n'existaient que dans ma tête en disant que j'étais un boulanger ou parachutiste ou je sais pas quoi. Puis après ça, c'était médecin beaucoup aussi. Et j'ai donné des tas de
fausses consultations.
De conseils jusqu'au moment où un mec a fait... Son fils a failli mourir parce qu'il avait l'appendicite et j'avais dit c'est rien, c'est une connerie. Il m'avait dit docteur, vous êtes sûr ? J'ai dit
ah
oui,
ouais,
bien sûr.
Ça aurait pu vous valoir des ennuis, bon enfin.
Oui, j'étais obligé de changer de coiffeur, c'était chez le coiffeur.
Alors, on va, maintenant qu'on a évoqué quelques-unes de ces pages de votre vie parisienne, de votre amour de la chanson, on va revenir sur quelques chansons anciennes que vous aimez particulièrement. Tout à l'heure, on était dans le mélancolique. Là, on va passer un peu dans le violent avec Bruant et ses chansons, comme « Amour rouge », par exemple. Dites-nous un mot d'abord sur la violence dans la chanson.
Oui, Bruant reste un auteur de chansons et un musicien aussi, enfin, quoi que la musique est un peu sommaire, mais qui a marqué son temps comme étant une chanson à boire, quoi. À la Bastille,
ouais.
On l'aime pas bien, ni les pots de chien,
ouais.
Tout ça, c'est lui qui a fait auprès de ma blonde. C'est lui qui a fait un tas de chansons comme ça. Or, c'était, à son époque, quand il avait repris le Lapin Agile et tout cela, c'était quelqu'un qui chantait la détresse populaire, qu'il a chanté, d'ailleurs, on lui a beaucoup reproché de vivre lui aussi, comme Léo Ferré et comme d'autres, sur le dos des pauvres. Mais en fait, c'est pas affreux de dire ça, parce que pourquoi pas. C'est pas, c'est pas parce qu'on préfère une voiture qui marche à une voiture qui marche pas, qu'on n'aime pas les ouvriers. Bon. Donc, il avait fait ça. Et il y avait une violence qu'on ne retrouve plus jamais maintenant dans ce Amour rouge. Je l'ai réécouté pour vous la conseiller aujourd'hui. Et je dois dire que c'est une violence que j'ai rarement vue.
Mon daron voyait tout en noir, il faisait le croque-mort dans la semoir. C'est pour ça qu'on l'appelait Bazouge à Montrouge. J'en connais qui voient tout en blanc, ils en boulottent, ils ont pas de sang. Moi j'en ai mais je vois tout en rouge à mon rouge. C'est mon blot, moi v'là mon pépin, saigne un concier comme un lapin. Y'a pas gras, les nuits bibi bougent à mon rouge. J'ai le foie chaud dans ma poule sans bout. Quand je vois rouge, dans le noir, je crève tout. Gare aux pentes, qui veut suivre ma gouge à mon rouge. C'est Rosa, je sais pas d'où qu'elle vient. Elle a le poil roux et une gueule de chien. Quand elle passe, on dit v'là la rouge à mon rouge. Quand elle tient, elle miche dans un coin. Moi je suis à côté, pas bien loin. Et le lendemain, elle sert au trou du rouge à mon rouge.
À Montrouge, c'était Marc Augeret. Vous aimez, je crois, cette version, Pierre Bénichoux, de la chanson de Bruant. Chanson, effectivement, on voit que c'est pas les rappeurs qui ont inventé la violence dans la chanson. Ça existait déjà. Mais c'était un drôle de personnage, néanmoins, ce Bruant, quand même très, avec un côté dénonciateur des misères, mais aussi un côté réactionnaire, anti-Dreyfusard, compliqué.
Bien sûr, hein, anti-Dreyfusard, puis surtout anti-syndical, anti-machin, anti. Enfin, il était poujadiste avant l'heure, quoi. Il était. Il était Front National.
Mais ça vous le rend pas pour autant antipathique, en tout cas, parce que c'est une grande.
Mais on peut pas juger avec les
critères d'aujourd'hui.
Les critères d'aujourd'hui. Vous savez ce que vous savez sur l'antisémitisme ? C'était une façon d'être, une façon de penser, une façon. Jaurès a été antisémite. Il y a des textes antisémites de tas de gens. C'était une façon de penser comme ça. Et cette phrase atroce de Bernanos, il faut toujours l'avoir en mémoire. Hitler a déshonoré l'antisémitisme.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, est-ce qu'il y avait un antisémitisme honorable ? Je ne crois pas, parce que c'est le lieu géométrique de toutes les bassesses, l'antisémitisme. Mais c'est vrai que ça n'avait rien. Un mec qui était, après la libération d'Auschwitz, antisémite, celui-là mérite un gros pavé dans la gueule.
Ouais, bon. Ouais. En 1900, ce n'est pas tout à fait le même contexte.
Pas pareil.
Alors, à propos des critères d'aujourd'hui qu'on applique pour juger les artistes du passé, il y en a un qu'on prend souvent beaucoup pour son grade, c'est Maurice Chevalier. Aujourd'hui, chaque fois que je prononce le nom de Maurice Chevalier, que j'adore, c'est toujours le collabo, ce qui n'a pas été
non,
au sens
pas
propre.
Le collabo, non.
Non, mais ça revient sans arrêt.
Il y en a deux ou trois qui portent ce chapeau-là. C'est Sacha Guitry.
Ouais.
Lui, bon, ils n'ont pas fait le voyage en Allemagne. Maurice Chevalier, bon, il fallait bien qu'il monte sur scène. Vous savez, Daliot disait, les fonds de teint, il appelait comme ça tous les gens du spectacle,
oui.
Les fonds de teint, si on les empêche d'en mettre et de monter sur scène, ils meurent. Moi, je n'ai pas eu ce truc-là parce que j'avais la chance d'être juif.
Oui.
Mais allez savoir si je n'aurais pas. Bon. Et il, à un moment, il n'a pas été terrible. Il a chanté une fois pour les prisonniers, il y avait des Allemands aussi. Il y a des tas de gens qui le défendent très bien.
Voilà.
Moi, j'y étais pas. Et vous savez qui l'a défendu et qui lui a empêché d'avoir trop. Il a eu que 6 mois d'indignité nationale ou d'interdiction de passer à la radio. Et c'est Aragon.
Alors, oui, c'était effectivement une caution qui comptait dans le contexte de la libération. Vous avez choisi une chanson qui s'appelle la Symphonie des Semelles de Bois.
Parce que. C'est cette occupation qui, Dieu sait, a été quelque chose d'ignoble et de souvenirs atroces. Il y a eu quand même, sinon, une joie de vivre. Je ne sais pas si c'est...
Les azous.
Si le passé rend tout beau, mais même ces semelles de bois, moi, je me souviens, ma mère emportait les semelles de bois articulées. Et on mettait des bas avec... on mettait du fond de teint sur les jambes. Et avec un crayon gras, on faisait la rayure du bas.
Ah oui.
Et oui. Mais évidemment, ça claquait les semelles de bois. Alors, j'étais fier que ça claque aussi, parce que comme ça, on savait que c'était pas un cadeau de Schleu. Tout ça était très bizarre.
« j'aime le tap tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Tap, 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 disent le matin les petits souliers de sapin. Tap, 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 faut te réveiller, te lever, travailler. En marchant, les midinettes semblent faire des claquettes. Et tout le jour, on entend ce bruit si éloquent. Quel charmant vacarme font ces milliers de petits souliers. Les femmes ont du charme, à présent jusqu'au bout des doigts de pied. J'aime le tap, tap, des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Tap, 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 c'est le refrain de la rue pleine d'entrain. Tap, 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 la symphonie des beaux jours moins vernis. Ça claque, ça vibre et ça sonne plus qu'elle manque un klaxon. C'est le rythme parigot du sourire en sabot. Il chante la vie, il est nerveux, il est rigolo. C'est l'euphorie que sa musique vous met dans la peau. J'aime le tap, tap, des semelles en foie. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson, c'est bon. Ah, que c'est bon. Mais que c'est bon. Oh.
Maurice Chevalier en 1942, vous aimez bien, hein, Pierre Bénichou, cette chanson.
Ah oui, quoi, oui. C'est le refrain de la rue pleine d'entrain. Ah, c'est extraordinaire, la rue pleine d'entrain en 42.
Ouais.
Alors, soit on n'y connaît rien, soit c'est un salaud, et ben ni l'un ni l'autre.
C'est
on
bien.
Connaît. Et c'est pas un salaud, c'est un chanteur, voilà.
Et un grand chanteur en plus, oui.
Ouais.
Ouais, quand même. Hein. Vous l'avez pas mis dans votre...
Sinatra ouais. Disait qu'il avait plus appris avec Maurice Chevalier sur la façon de se tenir en scène, sur la façon de fumer une cigarette ou de boire un whisky quand on est en scène. Il avait plus appris que dans toutes les grands orchestres dans lesquels il avait chanté.
C'est
Franck qui dit ça.
Un sacré compliment, mais c'est vrai que la carrière de Chevalier aux États-Unis, on ne l'imagine pas aujourd'hui. C'était une vedette mondiale. Hein. Alors, on va changer complètement de registre avec une autre chanson que vous avez choisie. Là, alors, on est vraiment dans la chanson poétique, tellement poétique que c'est une chanson sans musique. J'avoue que je ne la connaissais pas, c'est vous qui l'avez fait sortir des archives. Paroles de Jean Cocteau, interprétées par Marianne Oswald, et c'est ce que Cocteau a sous-titré « Chanson parlée ».
Alors, je vais vous dire un mot sur Marianne Oswald, parce que Marianne Oswald, c'était une réfugiée allemande qui avait eu une enfance terrible, quoi, qu'elle a été violée, qui avait une voix rauque, comme ça,
ouais, ouais.
Et qui était devenue l'idole du Saint-Germain-des-Prés des années 35-40, et qui s'est cachée en France pendant toute la guerre, et qui recevait des textes extraordinaires de Macorlan, de Cocteau, tout ça, dont cette chanson parlée, qu'elle chante avec, qu'elle parle, avec l'accent allemand, et qui est une merveille, voilà.
Et donc cette chanson, Anna la Bonne, c'est une chose d'une cruauté incroyable, hein, ça rappelle un peu, avec quelques années d'avance, les bonnes de Genet.
Oui, c'est un thème récurrent,
ouais.
C'est-à-dire la bonne qui tue la patronne.
Oui.
Mais les bonnes de Genet, c'est beaucoup plus lourd, quoi.
Ah,
c'est
ouais.
Beaucoup plus engagé, c'est beaucoup plus... Vous savez, les œuvres engagées, il faut que ce soit léger, sans ça c'est comme un cadeau,
ouais.
Sur lequel on aurait laissé le prix, vous savez, bon, pas de moi. Tandis que cette chanson de Jean Cocteau, moi, elle m'a toujours fasciné, un peu gêné même.
Anna la Bonne, chanson parlée de Jean Cocteau.
<t'-> mademoiselle. Ah, mademoiselle. Mademoiselle Annabelle. Mademoiselle Annabelle. Depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Chaque soir, sans ouvrir la porte, vous venez au pied de mon lit. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle Annabelle, sans doute vous étiez trop bonne, trop belle et même trop jolie. On vous portait des fleurs comme sur un autel. Et moi, j'étais Anna la bonne. Anna la bonne de l'autel. Vous étiez toujours si polie. Et peut-être un peu trop polie. Vous habitiez toujours le grand appartement. Et la chose arriva, je ne sais plus comment. Si, bref. J'étais celle qu'on sonne. Vous m'avez sonné une nuit comme beaucoup d'autres personnes, et ce n'est pas assez d'ennui pour, enfin, pour qu'on assassine. Nous autres, on travaille, on dort. Les escaliers, les corridors, mais vous, c'était les médecines pour dormir. Ma petite Anna, voulez-vous me verser 10 gouttes? 10, pas plus. Je les verse toutes. Je commets un assassinat. Que voulez-vous? J'étais la bonne. Vous étiez si belle, si bonne. Vous receviez un tas de gens. Vous dépensiez un tas d'argent. Et les sourcils qu'on vous épile, les ongles et le sexe pile. Ah, mademoiselle. Mademoiselle Annabelle. Mademoiselle Annabelle. Depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Chaque soir, sans ouvrir la porte, vous venez au pied de mon lit. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle Annabelle, vous croyez que l'on me soupçonne? La police, les médecins, je suis Anna, celle qu'on sonne. On cherche ailleurs les assassins.
Anna la bonne, chanson parlée de Jean Cocteau par Marianne Oswald, un choix de Pierre Bénichoux. Très très bel enregistrement hein, de mars 1934, Pierre Bénichoux.
34.
Oui, 34. Hein. Voilà, en tout cas de l'art littéraire appliqué à la chanson. Alors d'ailleurs, on a entendu des chansons mélancoliques, on a entendu des chansons poétiques, on n'a pas entendu tellement de chansons comiques avec vous. Vous aimez les grands comiques de la chanson, les Fernandel, les Georgius,
Oui, j'adore. Georgius, Fernandel, Ouvrard, tout ça.
Ah bon, vous aimez aussi?
Ah oui, bien sûr.
Les chansons de militaires qui reviennent du régiment.
J'aime bien. Je vais rendre hommage à mes amis récemment disparus qui chantaient ça parce qu'il était dans la coloniale. Ils chantaient les marsouins, c'est comme les homards, quand c'est cuit, c'est rouge. Respectez l'armée coloniale qui boit du vin rouge. C'est formidable, ça. C'est autant la chanson que le plus joli texte d'Aragon de Prévert. C'est la chanson.
Et vous qui êtes pieds noirs et néanmoins de gauche, les chansons coloniales, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un drôle de répertoire là quand même.
Ouais. Ouais, non, c'est pas bien ça.
C'est pas bien.
Il y avait des chansons racistes, des chansons. Trabadja la Mouquère, ça, ouais. Bah. J'allais dire, faut pas juger si, faut juger très sévèrement. Ah bon. C'était la colonisation s'est faite de façon ignoble, qui n'a d'égal que la décolonisation. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Tout ce que je voudrais dire, pas plus.
Alors, revenons au comique avec le grand Georgius. Oui.
qui a été un des maîtres de la du détournement, comme on dirait aujourd'hui en langage intellectuel, de la parodie dans la chanson. Le fils père, par exemple. Expliquez-nous un petit peu.
Le fils père, moi j'avais un oncle qui était un érudit, un génie, qui s'appelait Paul Bénichoux, qui a fait des...
Un grand homme intellectuel.
De l'histoire de la littérature. Enfin, c'était un historien de la littérature, et c'était un des tout grands intellectuels de ces années 30, 80. Bon. Il avait une passion pour le musical, pour le tango. Il aurait voulu, au lieu d'être professeur doyen de la faculté d'Harvard, il aurait voulu, enfin, disait-il, et à 15 ans, 20 ans, alors qu'il était normalien et fils de famille très modeste d'Algérie, comme mon père, et il aurait voulu être Carlos Gardel, quoi.
Chanteur de charme.
Et il passait son temps, pas dans les bouges, mais enfin, je veux dire, ils adoraient, et c'est lui qui chantait Le Fils Père.
Le Fils Père.
Alors, Le Fils Père, c'était...
C'est une fausse chanson réaliste, en somme.
Mais oui, c'est la plupart des chansons... C'était pas encore le réalisme, c'était les chansons... réalistes.
Les filles de la rue, quoi.
Oui, les filles de la rue, c'est faux. Vous savez que l'entrecôte, comment ça s'appelle, l'araignée farouche, je sais pas quoi. Et toutes les chansons sont fausses, parce que c'est pas des chansons trop bêtes.
Oui.
C'est les bourgeois qui les regardaient comme ils sont bêtes.
Ah oui.
C'est ça, là.
C'était fait exprès, c'est un produit de dérision.
Alors, il y avait une chose qui s'appelait que la bourgeoisie mettait au banc de la société qu'elle aimait et qu'elle représentait, qui était la fille mère.
Voilà.
Alors, fille mère, c'est-à-dire une fille qui est là et qui a un enfant
dont on ne connaît pas le père.
Dont on ne connaît pas le père. Et lui, pour parodier cette chose-là, il a fait une chanson qui s'appelait Le Fils Père.
Et c'est interprété par Christian Borel.
Il était beau, il s'appelait Jules, il n'avait pas encore fauté. Quand certains soirs au crépuscule, par le désir, il fut hanté. Juste à ce moment, une brunette qui descendait de l'autobus lui dit « Viens-tu dans ma chambrette, j'habite au quartier Picpus. » Amour, amour, tu fais faire des folies. Amour, amour, tu nous fais bien du mal. Il soupira si je faute, mamie. M'épouseras-tu? Oui, dit-elle, c'est fatal. Mais quand il sut donner bêtement, elle lui dit, maintenant, va-t'en. Elle le jeta hors de sa maison, sans lui rendre son pantalon. C'est alors qu'il comprit sa honte et sa misère. Un malaise le prit. Jules était fils père. Afin de dissimuler sa faute, il prit d'affreuses précautions. Il se serra les entrecôtes et fit élargir ses caleçons. Mais un jour il perdit sa place. Le patron l'ayant fait appeler lui dit « Ta faute et je te chasse. Faut pas de fils père à l'atelier. » Mon Dieu, amour, amour, tu fais faire des folies. Amour, amour, tu nous fais bien du mal. Pour oublier, il sombra dans l'orgie. Il but du cidre et de l'urodonal. Alors à Montmartre, là-haut, on le vit rouler dans le ruisseau, tandis que de joyeux noctambules venaient tirer l'oreille à Jules. Et de son pauvre corps, les filles abusèrent. On n'est pas respecté quand on est fils père. Un soir dans une louche officine, il entra, décidé à tout. Il vit une femme, une gourgandine, qui s'appelait Madame Guette-au-Trou. Pour faire disparaître les traces de la faute du pauvre gueux, elle lui charcuta la carcasse en se servant d'une pelle à feu. Oh, quelle horreur! Amour, amour, tu fais faire des folies. Amour, amour, tu nous fais bien du mal. Le pauvre gars faillit perdre la vie. Hier, il est sorti de l'hôpital. Et maintenant, par les flétries, le ventre et les seins pleins de plis. Sur le Sébasto, on peut le voir. Il est devenu fils du trottoir. Mariez-vous, jeunes gens, avant de vous laisser faire. Ne faites pas comme Gilles, le malheureux fils père.
Le fils père de Georgius par Christian Borel, encore un choix de mon invité. Aujourd'hui, Pierre Bénichoux, amoureux de la chanson, qui fut même chanteur dans sa jeunesse, il nous l'a dit tout à l'heure.
Ah, vous l'avez dit. Vous allez me couvrir de ridicule. J'ai pas été chanteur. J'étais tenté par ce métier comme disait Mouloudji, que je regrette de pas avoir mis aussi là dans cette liste, parce que c'était le dernier chanteur de charme qu'il y a eu. Et il disait, tu te rends compte, on me donne de l'argent pour chanter. Et ça lui semblait extraordinaire. Ouais.
Et vous n'en avez pas écrit non plus de chansons, vous qui rêvez.
Non.
Vous qui rêvez.
J'ai pas
trouver...
su parce que j'ai des copains, dont un ami très cher que je vois tout le temps, qui est Jean-Loup Dabadi.
Voilà, grand auteur de chansons.
Qui a le génie de ça. Et j'ai essayé de faire comme lui, j'ai pas pu.
Donc vous ne trouverez jamais la phrase qui fait qu'une chanson est intéressante et qui vous fait rêver
Je crois qu'il faut pas commencer par là. Il faut faire des chansons, apprendre la métrique, apprendre le. C'est très difficile. C'est très. Guy Béart, par exemple, était si vous m'aviez parlé d'une liste que je faisais avec Léo Ferré.
À Gainsbourg est traîné.
Et Gainsbourg est traîné. Je crois que Guy Béart a loupé de peu d'être dans les trois. Enfin, d'être le quatrième, en tout cas.
Vous l'avez bien connu, Guy Béart.
Oui, très très bien. Et je sais pas, j'ai même fait des petits rajouts. Vous savez, Guy Béart, c'était tragique parce que. Il vous chantait tout son répertoire.
Ah oui.
Comme il a fait 300 chansons, vous chantez 300 chansons.
C'est quand vous alliez chez lui, il chantait tout.
Chez lui ou ailleurs. Dès qu'il tombait sur une guitare, la malheureuse, c'était... Bon. Et il a fait des chansons absolument merveilleuses. Et lui, il connaissait toute son œuvre par cœur. Alors que la plupart des grands chanteurs... J'ai gagné un pari avec Aznavour sur les paroles de ses chansons. J'ai dit non, c'est pas si, c'est ça... Non, tu vas pas me dire. Si, je te le dis. Bon. Et j'ai compris pourquoi je gagnais toujours les paris sur les chansons. Parce que une chanson qu'interprète quelqu'un, il l'écoute, il la répète deux fois, il l'enregistre, il l'oublie. Si elle n'est pas dans son tour de chant, il l'oublie. Ouais. Tandis que moi, j'ai acheté le disque.
Vous l'écoutez.
Et je l'ai écouté 632 fois. Donc il est bien évident que moi... Ou même vous, alors, connaissiez mieux les chansons de Piaf que Piaf.
Sauf Guy Béart.
Guy Béart, lui, connaissait toutes ces chansons.
Tout par cœur. Et bien justement, Pierre Bénichoux, si vous voulez bien, on va se quitter avec une chanson de Guy Béart, qui fait partie aussi de celle que vous aimez le plus, qui s'appelle Poste-Restante.
C'est merveilleux, Poste-Restante.
Ouais.
Alors justement, vous dites la phrase.
Oui, la phrase qui fait la chanson.
Et revenez me prendre ailleurs, ici, là, je changeais d'adresse, et m'atteignais dans ma détresse. Tous ces retours à l'envoyeur, on s'écrivait. Le mot retour à l'envoyeur, là-dedans, voilà,
c'est la trouvaille géniale qui fait la chanson. Ben, merci de nous l'avoir si bien expliqué aujourd'hui, Pierre Bénichoux. Et j'espère que vous reviendrez nous faire partager votre amour de la chanson et de son histoire.
D'accord.
À bientôt.
Merci beaucoup, Benoît.
On s'écrivait de tendres choses, des mots pervers mais innocents, et rouges comme notre sang. De les redire ici, je n'ose. J'ai tenté de brûler ces pages, rien à faire, et je les relis. Tes arrondis, les yeux remplis de ces courbes à ton image, on s'écrivait poste restante au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis. Que sont les amours débutantes? Quand tu me griffais de ta plume, je restais tout pâle, interdit, sous ta griffe encore aujourd'hui. Ma fièvre ancienne se rallume. Depuis lors, sous d'autres couleurs, j'ai battu, je me suis fait battre. Ta guerre seule est opiniâtre. Tu m'avais fait battre le cœur. On s'écrivait, poste restante, au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis. Que sont les amours débutantes? Un jour ma lettre me revint. Tu n'allais plus jusqu'à la poste. Tu avais déserté le poste. Et mes lettres partaient en vain. Et revenaient me prendre ailleurs, ici, là. Je changeais d'adresse. Et m'atteignais dans ma détresse. Tous ces retours à l'envoyeur, on s'écrivait. Poste restante, au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis. Que sont les amours débutantes? Que monte une flamme nouvelle sur cette cendre désormais? Si tu vois combien je t'aimais, entre tes lignes se révèle ce qu'hier je n'ai pas su lire. Il faut du temps pour faire un cœur. N'as-tu pas détruit par rancœur ce qu'hier je n'ai pas su dire? On s'écrivait, poste restante, au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis. Que sont les amours débutantes? Que sont les amours débutantes?
Poste restante, une belle chanson de Guy Béard, choisie par son ami Pierre Bénichoux, qui nous faisait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, en attendant la parution, je pense dans quelques mois, de ce recueil de portraits et de nécrologies très vivantes néanmoins, qu'il a écrit et qui paraîtra chez Grasset.
Thank you.
La polka d'Irène au cours du concert du Nouvel An 2007 par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Zubin Mehta. Mais nous avons rendez-vous maintenant, avant de nous quitter, dans le monde des archives, de ces vieilles archives radiophoniques, de ces voix parlées qui font ressurgir les personnages du passé. Et parmi ces voix, j'ai choisi aujourd'hui celle de Miss Tinguette, qui a enregistré durant l'été 44 quelques documents extraordinaires où elle raconte sa vie. Nous en avons des fragments seulement conservés à l'INA. Curieusement, nous n'avons pas le début de cette interview. On va la prendre en cours au début de ce que nous avons conservé et où Miss Tinguette évoque sa jeunesse, son enfance, quand elle était encore petite marchande de fleurs à Enghien.
Voilà, monsieur, je viens vous demander l'autorisation de mettre ma petite boutique à l'air.
Oh, miss.
Naturellement, tout le monde se met à rigoler. Pourquoi rigolez-vous, vous?
Vous avez compris.
Ah, ben ça y est, vous avez compris comme le directeur. Ah, ben ça va, ça ne change pas. Comment se met-il à dire tout le monde en éclatant de rire, naturellement. Mais moi, qui ne comprenais pas et n'y voyais pas de malice, je répète ma petite question. Ben, j'ai dit oui, monsieur, oui. Ma petite boutique de fleurs, quoi, à l'air. Ben, et j'exposais mes projets. Monsieur Touzé m'accorda l'autorisation. Il m'a dit, ah, bien, ma petite, bien, bien. Eh bien, c'est entendu, je te permets de mettre ta petite boutique à l'air. Alors, j'allais trouver tout de suite ma mère et je lui dis, maman, ça y est, je deviens commerçante. Comment tu deviens commerçante? Oui, j'ai été voir Monsieur Touzé et j'ai le droit d'installer ma petite boutique à la porte du casino d'Enghien. Elle m'a dit, bon, ben, c'est entendu, seulement tu te débrouilleras, tu iras chercher tes fleurs toi-même. Alors ça, c'était un petit peu, ça m'avait interloqué. Je dirais, je chercherai mes fleurs moi-même, mais où ça? Eh ben, tu iras au hall tous les matins, tu te lèveras à 5h du matin, tu prendras le train d'Enghien et puis tu partiras au hall. Ben, je dis, ça va. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est déjà pas mal, ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir, madame?
Alors, ben, dites donc, mes beaux fleurs, ça marchait, ce commerce? Vous les vendiez?
Oh, si je les vendais, alors. Dites donc, j'avais une bande de bons hommes. C'était pas des gigolos à ce moment-là, c'était des vieux avec des cols un peu en l'air, comme ça, puis des belles cravates. Alors, ils venaient me parler, parce que moi, j'avais du bagou. Ça n'a pas changé, je bagoute un peu encore en ce moment, n'est-ce pas? Alors, j'avais du bagout, puis je les amusais. Alors, c'était pas le théâtre, c'était une table où il y avait des fleurs. C'était pas une scène. Seulement, ça faisait un peu scène parce qu'ils se mettaient autour de ma table. Alors, ils me disaient, je m'appelle Jeanne. Alors, ils me disaient, dites-moi, ma petite Jeanne, alors ça va aujourd'hui les fleurs? Oh, je dis, oui, monsieur le vicomte. Oh, oui, monsieur le prince. Il y avait des vicomtes et des princes. Je ne recevais que ça, moi. J'avais une très belle clientèle. Alors, il m'a dit, écoute, d'abord, tous les jours, quand ils passaient, une fleur à leur boutonnière. Un œillet, ça dépendait de la fleur qu'il y avait dans ma boutique.
On disait 5 francs.
Comment 5 francs? Un louis or.
Oh là là.
Or. Il n'y avait pas de papier. Alors il y avait de l'or. Alors on me donnait de l'or, n'est-ce pas? Alors quand il n'y avait pas de fleurs, je leur mettais, par exemple au rameau, je leur mettais un bout de buis.
Toujours ils pour 20 francs.
Non mais ça leur portait bonheur. Le buis, n'avait pas besoin d'aller à l'église, je les bénissais moi. Je les bénissais avant d'y aller.
La vraie chanson gauloise, à travers les barreaux de l'escalier. Approchez, approchez, on l'avance, dit rond, dit croque, dit pélo. En arrière les gosses, allez mouche-toi toi cochon, pas avec ta chemise, oh là là. Ma fille disait à maman, méfie-toi bien du grand pertinent. Je sais que c'est un enjôleur qui cherche à prendre ton petit. Oui, maman, répondait l'enfant, dans l'escalier des cojotissons. Crois-moi, je l'ai vite, je marche plus vite. Mais Ferdinand sentait chaque jour, pour cet enfant grandir son amour. Il la guettait à son passage, sur le paillet, ainsi qu'un pompe dans la cage de l'escalier. Cet homme était un vrai sauvage qui, sans pitié, voulut lui prendre son corsage à travers les barreaux de l'escalier. Olé!
Les prunos sont peut-être un peu moins chers, parce que s'il faut
Et voilà, ce sont les archives rares de Miss Tinguette durant l'été 1944. Elle évoque son enfance. On a écouté le petit épisode de la marchande de fleurs. On va maintenant la retrouver dans ce même entretien où elle évoque sa passion pour le piano et l'histoire de son chapeau et même de ses curieuses petites ailes d'agneau.
Mais en dehors de mon goût pour le théâtre, ben j'avais une passion. Oh, j'avais une passion pour le piano. Oh, quand j'avais un moment de loisir, hein, je me faufilais chez une voisine qui avait un piano. Et là, toute seule, dans la pénombre, je n'avais pas de lumière parce que je ne voulais pas qu'on sache que j'étais là. Et ben avec mes doigts, je jouais des chansons sans savoir la musique. Ça, c'est merveilleux. Hein. Ma mère, sur ma demande, je lui demande, oh maman, tu devrais m'acheter un piano et tout ça. Oh, on n'était pas riches à ce moment-là. Hein. Ben, je ne suis pas encore beaucoup en ce moment. Mais enfin, on n'était pas riches. À ce moment-là, ça allait mal. Et malgré mon goût si vif pour le piano, eh ben, elle n'a pas voulu me l'acheter. Vous savez pourquoi? Parce qu'un piano coûtait 600 francs. Alors, elle a pris le train avec moi un jour et elle m'a amené à la ville de Saint-Denis, Faubourg Saint-Denis. Elle m'a acheté un violon de 25 francs, c'était moins cher.
Ah oui?
Ben oui, mais moi, j'aimais pas le violon, ça m'embêtait. Je prenais des leçons à Paris, aux Galeries Vivienne, là, chez Boussagol. Je sais pas si ça dure encore, ça, il y avait un cours, là. Deux fois par semaine, je prenais le train. Naturellement, je ne pouvais pas aller à pied. Hein. Un jour, dans ce même train de banlieue, j'avais rencontré une dame dont le chapeau m'avait paru une merveille. C'était une sorte de bonnet écossais, vous savez, avec des petites ailes sur le côté, comme un petit morceau de réglisse, vous savez. Alors, en entrant chez moi, le chapeau, je l'avais dans la tête. Il n'y avait pas de cinéma, c'est entendu, mais moi, je l'avais en cinéma dans ma tête. En rentrant chez moi, je dis à maman, je lui dis, oh maman, j'ai vu un chapeau, une merveille, une dame qui était dans le train. Elle avait un petit chapeau avec deux ailes de chaque côté, puis ça faisait comme un petit bateau, quoi. Alors, ma mère me dit, ben, comment il était, ce chapeau? Et ben, voilà, comme ça, comme un petit bateau, et puis je lui explique tout. Elle me dit, attends, c'est pas difficile, ça te ferait plaisir d'avoir un chapeau comme ça. Moi, j'avais les cheveux en catogan derrière, vous savez, avec un nœud, puis retroussé. J'avais la bouche qui ravançait, j'étais pas très belle à ce moment-là. Je me suis formée depuis. Vous rigolez pas, quoi. Vous rigolez toujours, mais c'est la vérité, tout ce que je dis là. Bon. Alors, bon, maman me dit, ben, voilà ce qu'on va faire. On va prendre le train jusqu'à Saint-Denis. Ça coûtait 18 sous, c'est pas cher. Et elle va et elle m'achète un mètre de velours. Elle me dit, quelle couleur? Marron. Elle revient avec son velours marron. Elle me fait mon petit bateau. Alors elle me dit, mais il te va bien, c'est très bien, oui, mais il manquait quelque chose, il manquait les ailes, elle avait oublié les ailes. Alors elle me dit, oh, c'est pas difficile, attends, je vais me débrouiller. Elle était très débrouillarde. Elle me dit, va me chercher deux pièges, ça coûtait deux sous chaque. Ça faisait quatre sous, c'était pas cher. Tout ça, ça allait bien, tant que c'était pas cher, elle voulait tout. Alors va me chercher deux pièges. Alors je vais chercher deux pièges, elle me dit, va chercher une planche, un marteau et quatre clous. Elle attrape deux petits pierrots, elle avait mis du pain, du crottin, tout ce qu'il fallait. Alors, elle les cloue, elle les tue d'abord tout à fait, parce qu'ils étaient encore un peu vivants, vous comprenez. Ah, ben, oui. Les pierrots, mais vous emboulottez, vous, tous les jours, des petits pierrots, quoi. Bon. Vous boulottez tout, vous tuez des moutons aussi.
Oui, oui, oui.
Alors, bon, elle n'avait pas de cœur pour ça, bon. Moi, je le ferais pas. Petites ailes, jusqu'au lendemain matin. Vous tuez des moutons aussi.
Oui, oui, oui.
Alors, bon, elle n'avait pas de cœur pour ça, bon. Moi, je le ferais pas. Alors, elle cloue mes petites ailes jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, mes ailes sont bien raides. Elle m'attache mes deux ailes de chaque côté de mon chapeau. Et puis elle me dit, allez, prends ta boîte à violon et va-t'en. Ça, tu as du chic. Je pars. J'y vais pendant 8 jours. Avec mes ailes. Puis tout d'un coup, dans le train, on était toujours les mêmes dans le train. Il y avait un abbé, il y avait un auteur qui faisait des revues à Parisiana. Alors, mon chapeau, je faisais bien. Je faisais bien mon catogan derrière. Ça calait, c'était une merveille. Mais au bout de 8 jours, voilà que mes ailes, c'était de la viande quand même. Ça commence à sentir mauvais.
Oh, diable.
Alors on commence à me dire, dis donc Jeanne, tu trouves pas que ça sent mauvais? On ouvrait les fenêtres sans rien dire. Ben j'ai dit non, moi je sentais rien du tout, c'était au-dessus de moi. Ça venait pas dans mon nez, c'était au-dessus de ma tête. Alors elle me dit, les gens qui étaient là me disent, mais c'est drôle. Puis les mouches me suivaient.
Oh, c'est une catastrophe.
Mais non, c'est pas une catastrophe, elles aimaient ça, elles étaient... Elle me regardait déjà, que si personne ne me regardait, j'avais les mouches qui me regardaient, puis elles me suivaient. Alors arrivé à la gare du Nord, je descends du train, et puis mes mouches me suivent, j'allais à pied ou à l'impérial d'un omnibus. Alors mes mouches m'attendaient à la porte de chez Boussagol, la galerie Vivienne, puis quand je ressortais, j'avais ma nuée de mouches qui recontinuait. Puis au bout d'un certain temps, les ailes commençaient à tomber par terre comme ça. Ça commençait à devenir violet, vert, vous savez, comme quand on soit un coup de poing sur la tête, ça devenait de toutes les couleurs. Puis un autre jour, moi je gardais toujours mon chapeau, il ne pouvait plus y avoir de plumes. Après, ça faisait rien, ça faisait joli. Un jour, en sortant de la gare du Nord, il y a eu un coup de vent, il s'est envolé, il n'avait pas mis d'épingle à chapeau. Puis voilà, voilà l'histoire de mon chapeau. Mon premier chapeau de femme élégante. Alors, c'était pas drôle. Hein. Et alors, dans le train qui m'amenait, vous savez, il y avait Poulbeau. Poulbeau était à la commerciale, lui. C'est avenue Trudaine, à l'école commerciale. Oui. Alors, il y a le Poulbeau qui était là, qui venait me voir avec un tas de garçons, un tas de petits jeunes gens, là. Il m'attendait au train quand je revenais, là, le soir.
C'était un flirt, alors, Miss.
Non, c'était pas un flirt. J'en avais trop, alors j'avais tout l'école commerciale derrière moi. J'avais déjà des boys. Oh, j'étais pas encore actrice, j'avais tous les boys derrière de l'école commerciale. Ils ont pas dû bien travailler dans ce temps-là. Alors après, voilà.
Il n'a pas fait un petit dessin de vous, Poulbeau?
Si, il en a fait un. Alors, il m'a fait avec ma boîte à violon, mon catogan et mon galurin, naturellement. Et comme les gens en dessous, il a mis... Elle est d'Anguin, elle apprend le violon.
Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche, Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi je vous le dis, passer de Paris. Ce Paris qui pourtant vous chine tant et tant. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes. C'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai. Lorsque ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette, mais je serais pas distinguette si j'étais pas comme ça. Que c'est bon quand on vient d'Amsterdam et qu'on a vu pendant des mois des tas de pays, de retrouver le macadam de Paname, ses autobus et son métro et ses taxis. Paris et ses boulevards avec tous ses bobards. On dit que j'ai de grandes connotes, que je n'ai que trois notes. C'est vrai. On dit que j'aime jouer les arpètes, les marchandes de violettes. C'est vrai. Mais ne voulant pas chipper aux grandes coquettes, leur dame aux camélias, moi je vends mes bégonias. On dit que je fais voir mes gambettes, mais je serais pas mistinguette si j'étais pas comme ça. Que je paye pour ce que j'achète.
C'est vrai.
On dit partout et l'on répète que je lâche pas mes pépettes.
C'est vrai.
Mais s'il faisait comme moi pour sa galette, Monsieur Sarro n'aurait pas un budget aussi bas. Et si l'on mettait à la tête des finances distinguettes, on n'en serait pas là.
C'est vrai, la merveilleuse chanson portrait de Mistinguette sur une musique de Casimir Oberfeld. Et puis auparavant, donc c'était ce document rare, Mistinguette évoque sa jeunesse et ses débuts, une émission de Max Derieux enregistrée le 3 juillet 1944. Merci à Marie Chauveau de Lina qui nous a permis de retrouver ce très beau document.
Thank you.
Électrique, une polka d'Edouard Strauss, le petit frère de la famille, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Laurine Mazel. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Bruno Mourlan, réalisation Swad Boukorsa. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain. Bon week-end à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.